bienvenue sur Radio Campus Paris pour votre quinzomadaire radiophonique préféré consacré aux nouveaux talents et aux récits originaux. Ce soir, on va parler de... pas de logement et de vérité parce que ça, c'était le lancement de la dernière fois. Ce soir, on va parler de créatures étranges et d'Odyssée. Allez, mes invités, mon invité est écrivain. Mais avant de commencer, avez-vous passé votre week-end en vous disant « Lundi, c'est loin ». ».« Lundi, c'est loin », eh bien, c'est le titre du roman dont je voudrais vous parler maintenant. Et oui, c'est le retour de la chronique de début d'émission. Il nous vient d'Irlande qui, visiblement depuis le succès de Sally Rooney, s'est spécialisé dans les récits de vie sentimentale ou sexuelle de jeunes adultes, à moins que ce ne soit un effet du succès de Sally Rooney qui a donné des idées à quelques éditeurs. Enfin bon, revenons à Lundi, c'est loin, le premier roman de Oisin McKenna. Nous sommes en 2019 à Londres et une baleine s'est échouée sur les bords de la Tamise. Elle sera un sujet de conversation de tous les protagonistes de ce roman choral. Ils sont plutôt jeunes, trentenaires, vivent des vies précaires et alors que le week-end arrive, ils doivent se retrouver. Pendant 48 heures, ils vont se croiser, tous ou presque sont porteurs d'une nouvelle qu'ils devraient annoncer à leurs proches, mais qu'ils reportent encore et encore. On n'en dira pas trop pour ne rien divulgâcher. Le roman est plein d'énergie, alliant deux tonalités pas si simples à marier. Il est à la fois très tendre et ironique, comme dans un plat sucré-salé, l'équilibre est parfait. Après, c'est un roman qu'on a du mal à lâcher, peut-être parce qu'il est construit comme une série, et il faudra qu'un jour, peut-être d'ailleurs que c'est déjà en train de se faire à l'université, qu'un jour en tout cas quelqu'un se penche pour montrer comment les séries ont infusé la construction des romans des années 10 et 20. Je pourrais vous parler des espoirs des uns et des autres, de la difficulté de dire aux gens qu'on les aime et qu'on veut passer le reste de sa vie avec eux, ou de leur dire que parce qu'on les aime, on va les quitter pour qu'ils puissent enfin vivre leur vie, et vous aussi la vôtre. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est aussi la qualité du regard de son auteur, qui nous parle du Royaume-Uni d'aujourd'hui, de ce que ça veut dire en 2019 d'être né en Irlande et de vivre à Londres, de la manière dont il note par des détails une montée d'une forme de nationalisme britannique pas très sympathique, ou encore à la croisée du sentiment et de l'observation sociale, un très beau passage qui raconte le désarroi de la mère d'un fils gay et transfuge de classe qui ne sait plus quel livre lui acheter depuis qu'il est allé à l'université. On sent bien comment cela la rend triste, mais triste et rien que pour ça, Oisin McKenna mérite qu'on lise vite son premier roman, ça s'appelle Lundi c'est loin, c'est signé donc Oisin McKenna et s'est traduit par Olivier de Paris aux éditions de l'Olivier. Bonsoir Aurélien Blanchard.
Bonsoir Christophe.
Je crois que le livre dont je viens de vous parler, Lundi c'est loin, est assez à l'opposé de votre roman, le premier. Donc il s'appelle Les chemins écarquillés et il paraît aux éditions Christian Bourgois. Et je préviens tout le monde de sortir son agenda. On peut venir vous écouter le 12 mars à 19h à la librairie de la Manœuvre, 58 rue de la Roquette, Paris 11e.
Tout à fait.
Les chemins écarquillés, le titre de votre roman, raconte la fuite de deux personnages, peut-être plus, mais je ne dis ça, je ne dis rien. Je vous laisse nous donner le point de départ.
Alors, le point de départ, il est assez simple. C'est un pauvre type qui s'appelle Braque.
Qui passe en me regardant, s'il vous plaît.
qui a fait des allers-retours en tôle, qui n'a pas fait grand-chose de sa vie, qui a apparemment pas beaucoup d'intériorité et qui n'a pas beaucoup de facilité non plus à se lier avec les autres, et qui va se retrouver avec une petite mission indolore qui est d'escorter ou d'accompagner une créature pas très identifiée chez un zoologue qui fait des expériences. Et au moment où il remplit sa mission, après avoir un peu crapahuté, il se rend compte que cette créature, pour laquelle il n'éprouve aucun sentiment, on va lui faire du mal. Et c'est comme si quelque chose se réveillait en lui et il décide, sur une impulsion qui ne lui est pas très transparente à lui-même, de sauver cette créature et de fuir avec elle. Et à partir de ce moment-là, il y a une sorte de cavale, par moment molle, par moment moins molle, qui va s'en suivre.
On va y arriver. C'est l'idée de cette créature qui vous a guidé à écrire ce roman ?
Pas du tout. Pas du tout. La créature, c'est vraiment... C'est un whodunit, c'est une excuse, mais elle était... Au départ, j'ai pas voulu trop la qualifier. Elle occupe des positions différentes selon les moments du roman.
Elle se métamorphose au cours du roman.
Elle se métamorphose.
C'est presque kafkaïen.
Et sa fonction aussi se transforme. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment, et pas de manière très consciente au début, parce que j'ai écrit le livre de manière très cursive, on va dire, sans beaucoup réfléchir à ce que je faisais au début.
C'était le plaisir lors du voyage, la fuite.
Je voulais partir d'un monde sombre, plat, immanent, sans intériorité, un peu triste, un peu aliénant, à quelque chose de plus joyeux, avec la possibilité d'un lien humain. Et je ne savais pas du tout comment j'allais faire, mais je me suis dit, je vais partir d'un truc très noir, où je suis moi naturellement, on va dire, vers quelque chose de plus épanoui, de plus épanouissant. Je ne savais pas du tout comment j'allais faire, je savais juste que ça allait impliquer le rapport de Braque à des gens.
Alors Braque, c'est le personnage dont vous avez parlé.
Tout à fait.
Le personnage, c'est pas la créature, c'est le personnage.
Et je me suis rendu compte que, mais un peu contre mon gré, hein, mais que Braque allait mieux parce qu'il se retrouvait à avoir charge d'âme, en fait.
Parce que moi, au début, où je vous ai lu, je m'étais demandé si vous aviez fait une carte pour décrire les endroits. Si vous aviez utilisé une carte, pas du tout.
Pas du tout, et en plus, je suis très mauvais en géographie. Ouais. On m'a soupçonné d'incohérence il n'y a pas longtemps par rapport à la rivière. Non, pas du tout.
Bon. Alors, si je devais dissier votre roman, je dirais d'une formule, et avec tout ce que ça peut avoir de limitant une formule, c'est la rencontre improbable entre James Bond et Samuel Beckett. Ça vous va ou pas?
Ça me va pas mal dans la mesure où, mais c'est une sorte de tragédie pour moi. Au début, je voulais, j'étais parti pour faire du Beckett, quelque chose de très blanc, de très désincarné, en travaillant avant tout sur la langue et sur ses effets. Et puis, je me suis laissé entraîner. Je me retrouve à faire des courses-poursuites, en fait. Je voulais pas du tout aller là.
Je parle de Beckett parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Vlad et qu'on ne peut pas ne pas penser à un autre Vlad. C'est pas volontaire?
Absolument pas. Je maîtrise pas du tout l'intersexualité. Non, pas volontaire.
C'est pas une citation de Godot?
Non, c'est pas une citation de Godot.
Ah bon, j'en étais persuadé, moi. Alors, James Bond, parce qu'il y a quand même tout ce qu'on trouve dans un James Bond, des scientifiques pervers, des châteaux bizarres, des courses-poursuites en voiture, en bateau. C'était une envie de vous amuser avec ces clichés-là?
Alors, pour certains.
Est-ce que c'est quelque chose qui vous a nourri, vous personnellement, comme personne?
Ah bah, James Bond, pas beaucoup. J'aime pas beaucoup James Bond, mais non, les stéréotypes, j'avais envie. Enfin, moi, j'ai toujours adoré la littérature romantique noire ou gothique, y compris dans ce qu'elle peut avoir de plus caricatural. Et donc, j'étais très heureux de jouer avec des clichés et de passer vite. Et après, en fait, après, j'ai perdu le contrôle. J'ai perdu le contrôle des courses-poursuites. Il n'était pas prévu qu'on change de véhicule et je me suis bien marré parce que j'étais surpris par la cavale.
Et vous êtes là, en tout cas l'auteur est là dans le récit. Il y a un moment où vous dites du personnage, il a lu assez de livres pour savoir qu'il y a environ une chance sur deux pour qu'un manoir néo-gothique abrite un laboratoire au sous-sol. Là, c'est l'auteur qui s'amuse.
Oui, il y a peut-être un petit décalage de ton. D'ailleurs, je ne me rends pas compte, c'est un peu méta, mais bon, pourquoi pas, il a le droit d'avoir lu quelques bouquins aussi.
Ça lui arrive deux fois, hein, parce qu'il y a un autre moment où j'ai lu, où vous avez écrit, d'ailleurs c'est écrit, hein, il a l'impression de jouer les méchants dans un James Bond bas de gamme. Il ne manque que les jet skis.
Ouais. Ouais. En fait, j'ai du mal, je me suis beaucoup restreint, mais j'ai du mal à ne pas faire de blagues.
Et vous en aviez fait plus au départ, c'est votre éditeur qui les a retirés ou non, c'est vous-même qui vous êtes censuré?
Non, je me suis censuré, j'avais fait, en fait c'est mon deuxième texte, j'avais un premier texte abouti qui n'a pas trouvé preneur, et pour le coup c'était très, beaucoup plus proche d'un hommage à Terry Pratchett, on va dire.
Donc, je sais pas qui c'est.
C'est un auteur de fantasy absurde anglais, qui est un auteur extraordinaire, très très drôle, qui est publié à La Talente, qui est traduit par un immense producteur qui s'appelle Patrick Couton, et c'est très très drôle. Mais c'est surtout l'occasion de délire philosophique, et lui est brillant. Alors moi, pas forcément, mais en tout cas, vraiment, je m'étais lâché sur les blagues, et là, au contraire, je me suis corseté. Mais je ne me rends pas très bien compte à l'arrivée.
J'ai repéré celle qui restait. Mais ça veut dire que... Mais c'est intéressant. Ça veut dire que vous pensez ce que vous venez de dire là, en France, on ne pourrait pas publier un texte comme celui de Terry Pratchett aujourd'hui, parce que ce n'est pas dans la culture française, peut-être. C'est ce mélange de philosophie et de blague.
Non, je sais juste que...
votre texte, on ne vous l'a pas pris.
On ne me l'a pas pris, mais pour l'instant, je n'ai pas envoyé des milliers de gens. J'aurais du mal à en tirer une conclusion structurelle sur le marché de l'édition. Quoi. Ce serait...
Alors, on revient à votre texte, les chemins écarquillés, Aurélien Blanchard. Moi, ce que je me suis demandé, c'est est-ce que, en fait, aujourd'hui, on pouvait encore écrire une scène de genre sans dire « attention, j'écris une scène de genre ». Est-ce que vous êtes senti obligé de... Il y a forcément... On a tellement vu, on en a tellement lu... que pour être singulier, en tout cas, on est obligé d'être là.
J'ai toujours été troublé par ces questions en tant que lecteur
d'abord.
Désolé. Parce que j'ai toujours été un immense lecteur de littérature, entre guillemets, de genre, de science-fiction, de fantastique, de polar, de roman noir, de ce qu'on veut, et de littérature dite blanche et noble. En fait, dès qu'on va regarder de plus près, les passerelles, elles sont innombrables dès que ça fonctionne. En tant qu'éditeur en littérature, avec Benoît Laurent, on avait créé ensemble les éditions de L'Ogre. Moi, je suis parti il y a 3 ans. On était très à cheval sur ces notions de genre et littérature noble. Et c'est épuisant parce qu'effectivement, il y a une certaine complexité pour les libraires, notamment, sur quelle table on les met.
C'est pas très grave. Hein. Si.
Ah si, en fait, c'est très grave. Mon bouquin, c'est pas du tout un cadeau pour un libraire.
Il sait pas le mettre ?
Pas trop. Alors après, ça dépend comment on le présente, comment on le vend, mais typiquement, il y a des, on va pas dire que Murakami ou Kafka, c'est du fantastique pour les adolescents. Et pourtant, ça joue complètement avec le genre. Donc moi, j'ai juste fait ce que j'avais envie, en fait. Hein. J'ai pas réfléchi une seule seconde à ce que je faisais.
Vous voulez dire que c'est des questions de journaliste, c'est que vous simplifiez le travail des gens qui vous interviewent? Parce que c'est tout de suite une question qu'on peut se poser quand on voit ces remarques. Moi, je me suis vraiment dit, ils se sentent obligés, ils pourraient plus écrire une course-poursuite à l'ancienne parce que c'est quelque chose qu'on a trop vu et qu'il s'est senti obligé de montrer qu'il n'était pas dupe de ce qu'il faisait. Alors que vous dites non, c'est juste potache quasiment, c'est une blague.
Oui, c'est potache. Et puis, enfin, évidemment qu'il y a une distance. C'est juste que dans mon plan, parce qu'à un moment, j'ai quand même fini par faire un plan du roman que j'allais écrire et j'étais obligé d'avoir une course-poursuite. Je ne savais pas comment aller se terminer. Enfin, je ne sais pas écrire. Je me suis retrouvé à écrire ma première scène de grosse poursuite en voiture, ma première scène de sexe, plus ou moins. Et à chaque fois, c'est des sortes de petites gageures comme ça. Et je sais pas comment on écrit ça. Peut-être que j'ai pas lu assez de SAS, mais il n'y a pas de volonté de distance, en tout cas.
Alors, il y a autre chose dans votre livre, c'est que ça parle plus ou moins d'un grand effondrement. Là, vous l'appelez le shutdown. En tout cas, dans votre livre, ça s'appelle le shutdown. Et ce que j'ai trouvé très singulier, c'est la manière dont vous en parlez, parce qu'on imagine soit une catastrophe totale, et on a l'impression que c'est comme le monde d'aujourd'hui en plus ennuyeux, ce qui s'est passé, le monde d'après. Vous écrivez par exemple, c'est marrant comme tout s'est progressivement délité, par tout petit bout de l'école, l'État, la presse, tout le système en fait. Il n'y a pas eu de révolution, pas de catastrophe, juste un effondrement progressif où tout le monde s'en est en sorte replié sur soi-même, sans changer grand-chose en fait. C'était là encore, c'était une vision que vous aviez ?
Disons, parmi toutes les fins du monde possibles, et il y en a beaucoup en ce moment qui se battent un peu en duel, la plupart sont assez grands spectacles. Mais moi, je sais pas, j'avais envie d'être dans un monde. J'avais pas très envie de m'intéresser de près à l'apocalypse en tant que tel. Et ça existe, les effondrements progressifs, surtout quand on est dans les marges. L'avènement du fascisme, de la catastrophe écologique, en fait, tout dépend où on est, mais on peut très bien imaginer un endroit où on est dans les marges de l'État, on va dire tout simplement, et où, en fait, ça ne change pas grand-chose, voire ça libère. C'est juste parce que là, je suis en train de traduire un livre là-dessus, sur l'effondrement, et c'est un hasard, hein, mais sur l'effondrement à travers le temps, et montrer, en fait, comment c'était souvent émancipateur pour une grande partie des gens.
Oui, parce que moi, j'ai cette formule que j'adore. Il laisse derrière eux une maison dégueulasse et une télé allumée sur rien. J'aime beaucoup l'image de la télé allumée sur rien. C'est comme ça que vous craignez de voir l'avenir. C'est peut-être notre présent d'ailleurs déjà. C'est peut-être une télé allumée sur rien.
En fait, je trouve ça presque plus rassurant. C'est juste la continuation du monde tel qu'on le connaît, avec une sorte de baisse d'intensité. Le shutdown, en fait, c'est le shutdown d'Internet. On ne connaît pas les causes.
Mais
ça suffirait déjà à pas mal changer notre monde, en fait.
Vous vous rendez compte, ça a à peine 20 ans, Internet. Hein.
Oui, oui. c'est majeur. C'est un gros machin.
Vous pensez vraiment que ça a changé tant que ça notre vie ?
Oui. Ouais, je pense. En bien, en mal. Pas mal en bien. Hein. Je me souviens quand j'avais... il y a quelques années, je suis tombé sur un forum de gens passionnés par les scorpions. Et ils parlaient de...
Les scorpions, le signe astrologique?
Non, l'animal, et ils faisaient collection de scorpions, ils allaient dans les foires, et ils se parlaient ensemble sur un forum. Et avant, peu de temps auparavant, ça aurait été des gens qui auraient été très seuls avec leur passion. Donc Internet, c'est absolument extraordinaire. Mais pas que. Le thème de l'effondrement lui-même était juste... En fait, j'aurais très bien pu placer l'ensemble de mon roman aujourd'hui, maintenant. Mais c'est juste que le passé un peu plus tard, dans un monde géographiquement un tout petit peu plus flou, même si ça reste la France en fait, me donnait plus de liberté.
Il y a des incendies de forêt qui sont non maîtrisables, qui sont un élément récurrent du texte, qui rappelle qu'on est quand même dans un monde de l'après. En tout cas, quelque chose s'est passé, on ne sait pas quoi, mais quelque chose s'est passé.
Oui, mais on vit avec, tout comme on vit aujourd'hui avec des océans de plastique, ou des continents de plastique. Il y a les méga-feux qui sont apparus, mais comme on arrive à prévoir leur mouvement et qui sont très lents, c'est pas si compliqué.
C'est compliqué d'arriver à, quand on écrit, à arriver à être juste comme vous l'êtes, entre la fantaisie, en tout cas, la fantaisie, ça peut sous-entendre que c'est drôle, en tout cas, entre votre imagination et rester dans quelque chose de construit, parce qu'en même temps, il y a une vraie course-poursuite, il faut des voitures, il faut trouver des trucs. Ça a été compliqué à fabriquer. Alors, je veux pas vous vexer, mais en tout cas, à écrire ça et à le rendre cohérent.
Je sais pas, j'ai eu des peurs en cours de route, et comme quand vous parliez de Beckett et de James Bond, c'est de me tromper de fréquence, ou en tout cas de changer trop dramatiquement de fréquence, parce qu'il est clair
que vous trouvez un ton qui va entre les deux, justement.
Le ton évolue et passe de quelque chose de plus âpre à peut-être de plus léger, j'ai l'impression, hein, au fil du texte. Mais j'ai eu l'impression qu'à un moment, je trouvais le bon fil, on va dire. Et comme j'écrivais un chapitre par jour, et c'était une ou deux pages, pouf pouf, comme je travaillais sur des séquences très courtes, ça facilitait en fait le montage et la fluidité du texte.
Alors justement, il a tout de suite été pensé comme un texte court, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est un texte assez bref. Vous l'avez pensé et voulu comme ça, ou vous avez écrit beaucoup plus et coupé beaucoup après ?
Alors d'abord, j'ai commencé par pas le penser. En fait, ce qui s'est passé au début, c'est que j'ai écrit la première scène. La scène d'ouverture, je l'ai écrite en premier. Et puis le lendemain, j'ai écrit la dernière scène. Mais en ne me disant pas que les choses étaient liées. Ou pas vraiment. Et puis après, je me dis, ah, c'est marrant. Puis j'écris une scène au milieu importante. Et je me dis, ah ben voilà, donc là j'ai un chemin, je dois aller de A à B à C. J'ai des nouveaux personnages qui sont apparus, d'autres qui ont disparu. Enfin, je me retrouve avec plein de contraintes qui viennent de nulle part. Et j'ai commencé à essayer d'élaborer à partir de ce moment-là. Mais c'était pas ça la question, pardon, je me suis perdu.
Bah, moi aussi, je me suis perdu, mais c'est pas grave, vous aviez le début et la fin. Moi aussi, j'ai un début, j'ai une fin.
Et c'est super rigolo, parce qu'on se crée des contraintes et on essaye de...
Oui, je vous demandais si vous aviez beaucoup coupé aussi le texte.
Non, non, parce qu'en fait...
Si vous aviez écrit de façon...
En fait...
Si vous écrivez court naturellement.
J'écris court naturellement, ça, mais c'est un truc de lecteur maintenant, c'est que ça m'emmerde quand c'est le remplissage, la psychologie des personnages, la manière dont ils sont habillés, les paysages... À part s'il y a du choc de langue, à part s'il y a de la poésie, il peut se passer des choses. Mais sinon, j'ai pas besoin qu'on m'explique les choses ou qu'on me les montre. J'aime quand ça va vite.
Vous aimez quand ça va vite, donc il fallait qu'il y ait du rythme. J'ai bien compris. Les chemins écarquillés, votre roman est une sorte de fable, on peut dire ça ? Oula.
Je sais pas, peut-être.
Moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait une sorte de fable dedans. Alors, j'allais vous demander s'il y avait une morale à cette fable.
Ah, je réfléchis.
Ah oui, c'est pas.
Je réfléchis. J'ai pas tiré d'enseignements moraux, mais il y a encore une fois, il y a un truc bête. C'est un bête roman d'apprentissage. Hein, c'est un Bildungsroman à la Hermann Hesse, en beaucoup plus simple. C'est un mec qui est tout seul et qui découvre qu'on peut être pas tout seul et qui va s'ouvrir au monde et qui va découvrir qu'il a une vie interne, une capacité de création et qui va découvrir la joie.
C'est pas mal.
C'est pas mal.
Mais nous, on va écouter de la musique. Open the door. Can you hear the drums? This panic on the mountain, cause the new gods come. He doesn't recognize himself. Thank you. C'était Delirium, Gorillaz avec Mark E. Smith. Enfin, normalement, on dit featuring, mais moi, je ne dis pas bien. Ah, et puis normalement, il y a une virgule, mais elle n'est pas là. Mais ce n'est pas grave, on est toujours avec vous, Aurélien Blanchard. Vous êtes l'auteur des Chemins écarquillés aux éditions Christian Bourgois. Je rappelle qu'on peut venir vous écouter, vous rencontrer, peut-être même vous toucher. Enfin, en tout bien, tout honneur. Jeudi soir à la librairie La Manœuvre qui se trouve au 58 de la Roquette. Paris 11e, je n'ai pas le métro, mais je crois que c'est Breguet-Sabin ou quelque chose comme ça. On est donc toujours avec vous pour parler de votre roman. Je voulais revenir sur parce qu'on a un peu parlé de ça, du fait qu'à la fois, on est dans un univers, un autre univers que le nôtre, mais en même temps, il y a quelques points communs. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce que vous écrivez sur les complotistes à un moment, parce qu'ils rencontrent peut-être qu'il rencontre un personnage complotiste. Vous avez dit, d'ailleurs, il dit de lui, c'est un aventurier de la connerie. Moi, j'aime beaucoup cette expression, aventurier de la connerie. On va pas dire ça de tous les complotistes, hein, mais peut-être certains. Et vous écrivez que les gens qui croient au complot, c'est des gens qui ne veulent pas grandir, des gens qui veulent continuer à croire que le monde est encore rempli de secrets d'adultes, comme la mort, la petite souris ou le sexe, et que cette coalition secrète d'adultes, de reptiliens ou de dominants les exploite, certes, mais en même temps les protège en les laissant bien au chaud dans le monde pour de faux qu'ils ont organisé. Vous aimez les complotistes ou vous parliez tout à l'heure des gens là qui se retrouvaient sur Internet pour parler de scorpions. Vous êtes fasciné par ces communautés de gens qui partagent une vision parallèle du monde?
Je suis très ému. Après, une partie de... J'ai passé des années sur Internet à faire de la veille, soit du côté de l'extrême droite jusqu'à ce que ça devienne plus très rigolo, depuis quelques années, soit du côté des complotistes. Et notamment, à une époque, je faisais partie d'un groupe sur Facebook qui s'appelait Je suis Illuminati et je t'emmerde, où au début, on se relayait à des complots les plus rigolos, comme les récentistes.
Les récentistes,
c'est...
Je sais pas ce que c'est.
C'est un complot d'origine russe qui raconte, en gros, que de 400 de la chute de l'Empire romain jusqu'à la Renaissance, c'est un copier-coller, en fait, des 1000 ans d'avant. Et qu'il ne s'est rien passé. Qu'on est passé directement de la chute de l'Empire romain à la Révolution française, en gros, enfin à la Renaissance. Et qui le prouve. Et la question complexe que pose ce complot, qu'on arrive à sourcer de plein de manières, enfin cette théorie plutôt, c'est à qui ça profite, ce mensonge. Qui a intérêt à faire croire qu'il y a 1000 ans de plus, comme ça, qu'on a fait apparaître à partir de rien. Et donc celui-là, il est très, très marrant, ce complot-là. Notamment pour ces raisons de à qui ils profitent. Mais je m'égare un peu. Je voulais dire.
Moi, j'aime les digressions. Donc allez-y,
oui,
allez-y.
Je me perds vite.
Digressons.
Et donc, en fait, ce qui était marrant, c'est qu'à un moment, on a ouvert le groupe Facebook, qui était un groupe potache pour le coup. On l'a ouvert au public et on a commencé à recevoir plein de messages très agressifs disant je suis un Anonymous et je vais vous hacker. Et. Oui. Ou des gens très agressifs. Et en fait, on faisait de la pédagogie. On essayait d'expliquer que, oui, il y avait quand même... Enfin, pas moi, hein, mais des gens plus rodés que moi. Il y avait bien des rationalités à l'œuvre. Rationalités économiques. Il y a bien un truc qui s'appelle le capitalisme. Il y avait bien des forces qui se comportait comme un agent. Enfin bon, en gros, on faisait de la propagande, quoi. Mais, mais que personne s'était réuni dans une pièce pour toper les mains, ou pas vraiment. Oui, de toute façon, moi j'ai tendance à être ému, par, y compris par les ennemis, quoi.
Mais par quoi ? Par leur récit ? Par leur capacité ? Parce que là, vous dites, c'est comme des enfants qui cherchent à se protéger. C'est ça qui vous émeut ? C'est leur, c'est finalement leur fragilité ?
En fait,
derrière ce discours très construit, il y a une très grande fragilité.
Il y a une grande fragilité, mais souvent il y a aussi des questions qui sont des bonnes questions, qui sont l'exercice de leur esprit critique, et on a tendance à leur répondre avec la doxa scientifique, sans qu'ils puissent reproduire les expériences. Donc en fait, souvent les gens intelligents, c'est eux, pour le dire simplement, et pas ceux qui sont du côté de la connaissance commune.
Vous avez dit tout à l'heure, vous aviez été éditeur. Vous l'êtes plus, si j'ai bien compris, depuis 3 ans. Est-ce que quand on écrit soi-même un livre et qu'on travaille avec un éditeur, on apprend quelque chose sur son métier, vous, sur votre métier passé ? Vous avez appris quoi que sur la manière dont on travaille ? Parce que j'imagine que votre éditeur ne travaille pas comme vous travaillez.
La temporalité fait que, en fait, le texte était quand même très court et un peu à l'os, déjà en arrivant.
Vous ne pouvez pas couper beaucoup.
Donc, on ne pouvait pas couper beaucoup. On aurait pu me demander de rajouter 30%, ça aurait été un autre bouquin. Mais sinon, ou alors, de carrément reprendre, enlever un personnage. Mais sinon, le travail lui-même sur le texte a été assez léger. Sachant qu'à l'Ogre, on avait tendance à souvent à recevoir des textes beaucoup moins aboutis et à travailler beaucoup plus longtemps dessus. Mais alors, je ne dis pas que mon texte était abouti, mais en tout cas, il était.
Vous aviez l'habitude de travailler sur des textes, donc vous arriviez à avoir ce regard critique sur vous-même.
Ma compagne a joué le rôle de lectrice cruelle. Donc heureusement, j'ai eu pas mal de passes éditoriales avant.
Qui repérait les incohérences, par exemple. Parce qu'en fait, le travail d'éditeur est assez mystérieux, donc c'est un peu sur ça que je voulais vous faire parler.
Les incohérences, ça, c'est une des casquettes, mais ce n'est pas la plus. Ni la plus difficile, ni la plus intéressante.
C'est par exemple de tenir la note, comme vous disiez tout à l'heure.
C'est plus une histoire de fréquence et de jusqu'où on peut amener une intention, un geste littéraire.
C'est-à-dire là, on te perd, là, on perd le texte,
oui,
tu vas dans autre chose.
Après, que ce soit pas chiant, ouais, ça c'est pas mal, par exemple. mais c'est marrant, parce que la question de la vraisemblance, c'est important, en même temps, ça n'est pas tant que ça.
Vous êtes prêt pour écrire un deuxième roman, maintenant ?
J'ai envie, parce que j'ai pris, de manière surprenante, j'ai pris énormément de plaisir à le faire, celui-là. Je me suis beaucoup, beaucoup amusé. Donc là, j'ai très envie, j'ai des pistes, mais c'est pas facile de se remettre. Alors que mon bouquin, il est sorti il y a 3 jours, jeudi dernier.
Ouais, donc il est fini depuis au moins 1 an.
Ouais, tout à fait.
Donc, l'histoire, elle est loin de vous.
Elle est loin, mais je la réactive un petit peu.
Elle est encore très présente, là, faut la réactiver.
Elle est un peu réactivée, je suis obligé pour parler avec vous. Mais sinon, j'ai des pistes, mais j'ai pas rien qui est lancé encore.
Si je vous dis pour finir que vous avez écrit un livre sur la solitude, mais une solitude quasi métaphysique, ça vous va ou pas ? Sur le silence aussi, peut-être. Vous pouvez dire que c'est con, et on passe à autre chose.
Non, je pense pas que ce soit con. Je pense que la solitude métaphysique est la position de départ.
Oui, c'est ce que vous disiez. En fait, c'est quelqu'un qui peut-être trouve qu'on n'est pas forcément seul.
Et qui a la possibilité de sortir de cette solitude. Alors, pour entretenir quoi et quel type de relation, ça, je sais pas. C'est aussi compliqué que dans la vie. Mais
en tout cas, il s'ouvre à l'autre.
Ouais. Il se passe quelque chose. Alors, peu importe que ce soit des monades en parallèle, qu'il n'y ait pas de vraie communication, ou peu importe la nature même de cette tendresse, de toute manière, il y a bien quelque chose qui existe entre ces êtres, ces créatures vivantes. Et ça, c'est assez chouette. En tout cas, ça fait du bien au personnage principal.
Vous, ça vous ferait du bien pour qu'on... Hein? Ça vous fait du bien d'avoir raconté cette histoire-là ?
Mais beaucoup. Là, parenthèse, j'ai le temps. Hein, mais
oui,
là, je viens de traduire. J'ai deux bouquins. Il y en a un qui est en traduction, parce que c'est mon travail, traducteur littéraire. Il y en a un qui est sorti il y a un mois chez Grasset, qui s'appelle Les Nouveaux Esclavagistes, qui est sur la traite contemporaine des êtres humains. Et un autre qui sort là, dans une semaine, quelque chose comme ça, chez Albin Michel, sur le génocide des Indiens de Californie. Donc, en gros, en tant que traducteur, je suis vraiment un peu spécialisé dans ce qu'il y a de pire chez l'être humain. C'est vrai pour pas mal d'autres livres que j'ai traduits. Donc ouais, j'avais besoin d'un petit peu de faire un feel-good book, même si ce n'est pas du tout ma cam normalement.
C'est aussi un feel-good book, c'est vrai. Yeah. Mais il y a de ça dans cette course-poursuite qui a des airs de James Bond et de Beckett, je le répète. Merci beaucoup, Aurélia Blanchard. Je rappelle qu'on peut vous retrouver jeudi, attention, je me perds dans mes feuilles, qu'on peut vous retrouver jeudi 12 mars à 19h à la librairie La Manœuvre, 58 rue de la Roquette, Paris 11e. Merci d'être passé par le studio de La Relève. Voilà, c'était La Relève préparée, présentée par Christophe. C'était réalisé ce soir par Pablo, qui n'est pas une créature du tout, qui est un être de chair et de sang. On se retrouve lundi dans 15 jours. Vous pouvez nous retrouver exceptionnellement dimanche soir à 19h dans C'est dans l'art, on parle de bande dessinée. On vous souhaite une bonne soirée sur Radio Campus. Ce soir, il n'y a pas de matinale, mais à 20h, là encore, c'est sur une autre feuille et je suis perdu. C'est Salikoua et c'est en direct du Merle Moqueur. Décidément, cette radio littéraire. Bonne soirée.